Et donc, un rappel, notre thème général pour la fin de semaine, notre identité en Christ, vive pleinement sa destinée. Alors, ce matin, vous avez eu l'occasion de méditer peut-être un petit peu sur le psaume 139, un psaume défiant pour certains d'entre nous, en tout cas, surtout quand ça dit qu'on est des créatures merveilleuses. Je sais pas si combien de personnes sont regardées dans le miroir ce matin et ont dit « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse! » Je sais pas, hein? Voilà, notre premier thème pour ce matin, Dieu est à l'œuvre pour te conduire dans ta destinée. Alors, on va parler d'un Dieu qui est agissant. Peu importe ce qu'on peut faire dans notre vie, Dieu est au-dessus de cela et veut agir dans chacune de nos vies. Et récemment, j'entendais un théologien des États-Unis qui a dit ceci concernant Dieu. Le concept de Dieu est central. Tous les troubles humains viennent de faux concepts de Dieu. Si nous sommes à l'image de Dieu, pour mieux se comprendre, on a besoin d'une bonne compréhension de qui Dieu est. On a tendance à penser mal de soi parce qu'on pense mal de Dieu. Et souvent, on peut avoir des faux concepts de Dieu et de là, avoir une fausse image de qui on est. Alors, j'ai trouvé cette pensée très intéressante. De connaître Dieu. Hein? Jésus, dans Jean 17, il dit « La vie éternelle, c'est te connaître toi, Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître, mais connaître d'une manière pas intellectuelle, mais connaître d'une manière intime. Saisir la personne de Dieu, son cœur, sa nature. Tout le long de notre vie, et jusque dans l'éternité, on va découvrir Dieu. C'est un processus. Alors souvent, on a tendance à avoir des faux concepts de Dieu. Il y a plusieurs faux concepts de Dieu. Un de mes favoris, c'est quand les gens pensent que Dieu, c'est un mâle, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus ce matin. Mais on pourrait penser ça, puis ce n'est pas vrai. Dieu n'a pas de barbe. Pour ceux qui pensent que Dieu a une barbe, là, etc., qui l'image. Non. Mais un des faux concepts de Dieu, c'est le Dieu répondeur. Ça, c'est mon répondeur à la maison. Je suis un peu old-fashioned, certains vont dire, mais ça, c'est pratique d'avoir un répondeur de temps en temps. Et le Dieu répondeur, c'est celui que tu n'arrives pas à atteindre. T'entends le message, je suis occupé présentement, pourrais-tu laisser un message, s'il te plaît? Et il te renvoie jamais l'appel. Je ne sais pas si ça vous arrive, des fois, vous appelez des gens, puis ils renvoient jamais l'appel. Ça peut être un peu frustrant. Mais il y en a qui ont l'impression que Dieu est tellement inaccessible, il est très loin. Il y a une énorme distance entre lui et toi. Il y a 7 milliards de personnes à s'occuper sur la Terre, puis ça, c'est rien. La planète Terre, c'est comme... Hein, c'est dans cette pièce ici, c'est... peut-être un grain là, quelque part, là, puis tu es sur ce grain-là. Alors, comment est-ce que Dieu peut s'occuper de moi dans cet univers incroyable? Alors, le sentiment qu'on peut avoir avec un faux concept comme ça, c'est que moi, je ne compte pas pour Dieu. Je parle dans le vide quand je prie. Je me sens seul, abandonné dans le monde et je dois me débrouiller tout seul. Je vis dans l'insécurité face à ma vie, face à mon avenir, alors seul au monde. Et ce sentiment-là peut directement venir d'un faux concept de Dieu. Quelques passages bibliques qui nous montrent que c'est tout à fait l'inverse. Alors, j'en mentionne quelques-uns ce matin. Matthieu 6, au verset 6. « Prie, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. » Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu es seul dans ta chambre, ton Père tomber un après l'autre. Ils ont tous compté. Il y a de moins en moins de travail à compter sur ma tête. Certains, il y a plus de travail sur certaines têtes ici. J'ai remarqué qu'il y en a qui ont de très belles chevelures. Dieu connaît tous les cheveux de ta tête. La parole, et ça, je lisais ça ce matin dans ma lecture quotidienne. J'arrivais au psaume 32, un verset que j'aime énormément et Dieu m'a encore encouragé ce matin par ce passage. Le psaume 32, verset 8, il est dit ceci. « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Wow! Alors, ça me reparlait ce matin que mon Père Céleste est engagé envers moi. Il dit, « René, je vais m'occuper de t'instruire. Je vais te montrer le chemin. » Parce que tout le long de notre vie, on a des questions. Prochaine étape, c'est quoi, Seigneur? Il s'est passé ça dans les derniers mois, dans les dernières années. Qu'est-ce qui est là devant moi? Et on peut être inquiet, etc. Dieu dit, « Moi, je me suis engagé envers toi à t'instruire. » Un Dieu qui parle, un Dieu qui guide, qui conseille, un Dieu engagé. Et la parole nous montre que Dieu est un Dieu qui est à l'œuvre. Hier, on a mentionné ça, Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est assis, qui baille, qui attend que tout arrive à échéance sur la planète Terre pour enfin peser le bouton final pour la fin du monde. Non, la parole nous montre constamment, à partir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, un Dieu qui est à l'œuvre dans les vies. Éphésiens, chapitre 2, verset 10, dit ceci, « Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Alors, Dieu prépare des choses d'avance pour ta vie, pas juste pour ton voisin, mais pour toi. Dieu prépare des choses d'avance et on l'a vu ça dans le psaume 139 ce matin, on va y revenir plus tard. Philippiens 2, 13 nous dit « Car c'est Dieu qui opère en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Ça ne veut pas dire qu'il te force à faire quelque chose quand c'est le vouloir et le faire, mais il va te pousser, il va t'inciter, il va faire tout en œuvre, mettre tout en œuvre pour t'amener dans la direction qu'il a prévue, une bonne direction pour ta vie. Selon son dessein bienveillant, dit Philippiens 2, 13. Selon son dessein bienveillant. Le mot « dessein » est là, on parle de destinée, dessein. Intéressant de le voir qu'il est là. Et Ésaïe 41, 10 dit ceci. « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Dieu veut nous rassurer par rapport à l'insécurité qu'on peut ressentir dans notre vie, par rapport à notre présent ou notre avenir. De quoi est-ce que je me vais tirer? De quoi est-ce que je vais m'habiller? De quoi est-ce que je vais me nourrir? Quelle est ma profession? Est-ce que j'aurai un emploi? Est-ce que je me marierai? Dieu dit, sois sans crainte. Alors, n'ouvre pas des yeux inquiets, je te fortifie, je suis avec toi. Et j'aime bien cette phrase qui dit que la sécurité de notre vie, ce n'est pas l'absence de danger, mais c'est la présence de Dieu. Dieu veut nous faire entrer dans un sens de sa présence. Dieu n'est pas un Dieu répondeur, un Dieu absent, trop éloigné, mais Dieu est un Dieu présent dans notre vie. Alors, Dieu est agissant, mais bien sûr, il nous a créés libres. Et c'est toute la question de cet équilibre pour comprendre les voies de Dieu. D'une part, un Dieu grand, puissant, souverain, bienveillant, puis en même temps, il crée l'être humain libre, parce que sans liberté, il n'y a pas d'amour. Donc, Dieu s'est lui-même mis sous cette loi, si je peux dire, du libre choix de l'être humain. Alors, Dieu agit, mais nous, on réagit aussi. Je vais parler un peu de mon cheminement de vie. Comment est-ce que j'ai agi, mal agi, Dieu a réagi et j'ai répondu, etc., pour voir qu'il y a toute une interaction dans laquelle Dieu nous conduit. Mais d'abord, j'aimerais définir qu'est-ce qu'on entend par identité, puisque c'est notre thème, l'identité. Qu'est-ce qu'on entend par identité? Alors, j'ai fouillé, même quand j'ai écrit mon livre « Adopté par le Père », dont j'ai parlé hier, j'ai défini le mot « identité » d'une manière que, depuis lors, j'ai creusé plus loin, puis j'en suis venu à une définition plus personnelle qui dit ceci. L'identité personnelle, c'est ce qui fait qu'une personne, c'est-à-dire toi, que tu es unique, séparé et distinct des autres, selon la nature de ce que Dieu a mis en toi. C'est une définition un peu théorique au départ, mais qui peut nous éclairer qu'est-ce qu'on entend par identité. Donc, toi, tu es une personne qui est unique, tu es incomparable, hein? Tu es séparé, distinct des autres. Tu es incomparable. Il n'y en a pas deux comme toi. Selon la nature de ce que Dieu a mis en toi. Dieu t'a donné une nature, soit d'homme, masculine, homme, ou de femme. C'est la nature que Dieu a mis en toi, avec laquelle Dieu veut que tu sois peut-être réconcilié, parce que parfois on a de la peine même avec notre genre, avec notre identité sexuelle. Dieu veut nous amener à une réconciliation par rapport à cela aussi. Et on parle aussi de notre destinée, entrer pleinement dans notre destinée. Et le psaume 139, verset 16, on a lu ça ce matin, vous avez lu ça ce matin, si vous avez eu le temps. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. » Nous avons une destinée. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, c'était planifié par Dieu. N'oublions pas qu'il y a le libre choix. Il y a les péchés dans le monde qui font que le plan initial de Dieu peut être temporairement dévié. Parce que parfois, les gens vont dire « c'est la faute à Dieu ». Dieu a voulu que je souffre, Dieu a voulu que je passe par là. Et là encore, on revient à des faux concepts de Dieu. Mais la parole nous dit que Dieu a un dessein pour chacun d'entre nous. On connaît plusieurs d'entre nous, on a entendu souvent le verset dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets, les desseins que je forme à votre sujet, desseins de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Donc Dieu a des desseins pour ta vie, pour ma vie, et qui sont remplis d'espérance. Et Dieu veut qu'on vive dans cette espérance, cette attente que Dieu, ce que Dieu a prévu, il va l'accomplir. Mais cette destinée-là, donc, ce n'est pas comme une fatalité. Ah, c'est mon destin, je ne pourrais pas m'en sortir. Parce qu'on pourrait avoir une fausse définition du mot destinée. C'est pas la même chose qu'un déterminisme ou un destin, je n'y peux rien. Non, il y a toute cette question d'interaction entre Dieu et nous. Alors, à partir de mon témoignage, j'aimerais illustrer le fait que, oui, qu'on peut dévier des voies de Dieu, mais en même temps que Dieu, dans son amour, sa bonté, sa grâce, va agir pour nous ramener comme il a pu le faire dans ma vie. Alors, hier, j'ai parlé un petit peu de moi, mais j'en parlais un peu plus ce matin, de mon cheminement. Alors, j'ai dit hier que j'étais à un séminaire pour devenir prêtre. À l'âge de 12 ans, j'avais comme sur le cœur de devenir un prêtre. C'était mon désir. Pour ce faire, il fallait que je sois pensionnaire. Donc, dès l'âge de 12 ans, je vivais dans un dortoir avec une cinquantaine d'autres jeunes, 40 jeunes, toute la semaine, je rentrais à la maison juste le samedi après-midi. C'était pas très drôle comme style de vie, mais c'est un peu jeune, 12 ans, n'est-ce pas? Puis pendant 7 ans, j'étais dans ce séminaire-là, mais après une année, je voulais plus être un prêtre. J'ai vite changé d'idée. J'étais un fidèle servant de messe, même avant l'âge de 12 ans aussi. Et puis, même, je me rappelle jusqu'à l'âge de 15 ans, à l'église où j'habitais à Châteauguay, à l'église, là, le dimanche, je lisais l'Évangile devant pendant la messe. Et puis, à un moment donné, j'ai pris l'initiative de commencer une étude biblique. J'avais invité les gens, ceux qui veulent venir étudier la Bible avec moi après la messe, viendraient avec moi au sous-sol. On était une gang de jeunes. Mon père, le premier jour, nous a ramenés à la maison après l'étude biblique. Quand il a entendu les âneries que j'enseignais, il m'a fait arrêter cette étude biblique-là. Alors, ça n'a pas été très loin. Mais je recherchais, je demandais aux gens, mais pourquoi est-ce que Christ est mort sur la croix? Pourquoi est-ce que Christ est mort sur la croix? Puis, je n'avais pas de réponse satisfaisante, mais il y avait cette recherche qui était en moi. Et puis, après cela, pendant mes études au séminaire, j'ai commencé à complètement décrocher du christianisme pour plutôt entrer dans une approche athée. Et puis là, la dernière année de mon cégep, là, les quelques mois avant de quitter le cégep, il fallait que je fasse un choix pour l'université. Puis là, j'étais comme un peu « Je vais où, là, après? Hein? » Je sais pas si c'est déjà arrivé, vous. « Je vais où, là? Je fais quoi? » Et puis, alors, je me suis arrêté, je me suis dit « Qu'est-ce que j'ai à cœur de faire? » Alors, je me suis dit « J'ai à cœur d'aider les gens. » Et alors, de là, j'ai décidé d'aller étudier en psychologie. Je me disais « C'est peut-être la bonne manière d'aider les gens. » Et une première pensée par rapport à ça, voilà, l'Université de Montréal, certains d'entre vous connaissent l'Université de Montréal, c'était dans ce coin-là, là, la faculté était là, je ne sais pas si c'est encore là, en brillant, machin de la rue, Jean-Brien, là, le pavillon, là, je ne sais pas si c'est encore là. J'ai étudié là. Ça date de longtemps, là, c'était 1968, je crois. Donc, j'étais jeune, 18 ans, sorti de là à 23 ans avec une maîtrise en psychologie. Comme j'ai dit hier, je ne maîtrisais pas grand-chose. Mais une chose qu'on peut penser, c'est pour découvrir ma destinée, j'ai besoin de discerner les motifs. Pour découvrir mes dons, j'ai besoin de considérer qu'est-ce que j'aime donner. Quelqu'un a posé la question un jour, comment est-ce qu'on découvre ses dons? Parce que des fois, on se dit, peut-être les gens peuvent se dire, j'aimerais ça être vu par les gens, j'aimerais ça avoir un super ministère, etc. Ça, c'est pas la bonne manière de trouver ton appel. Mais regarde ce que Dieu a mis en toi. Avant même de se convertir, même parce que j'étais pas chrétien, mais Dieu avait mis en moi le désir d'aider les gens. Alors, qu'est-ce que j'aime donner? Qu'est-ce que tu aimes donner? Peut-être une façon de découvrir ta destinée. Voilà, ça c'était donc dans mon cheminement. Quand je suis arrivé à l'université, j'étais athée. Mais là, j'ai vécu tout un passage où je me suis détourné de l'appel de Dieu. Puis il y a différentes raisons pour lesquelles j'en suis arrivé à ce détour-là. Mais pendant mes études en psychologie, je suis comme inconsciemment entré dans la religion de l'autonomie. On dit, c'est quoi ça, la religion de l'autonomie? Ben, je découvrais en psychologie que pour être un homme, il faut être autonome. Il faut pouvoir se débrouiller tout seul. Et puis, je me rappelle, parce que j'avais des problèmes psychologiques, je vous en parlais dans un petit moment, et j'étudiais en classe, et je rencontrais un psychologue qui était fourni gratuitement, qui faisait la méthode que j'avais appris en classe. Et je lui expliquais mon problème. Alors, je vais vous dire c'est quoi mon problème tout de suite, comme ça, vous allez voir où j'en étais rendu. À cause de cette religion d'autonomie, puis là, je fais une petite parenthèse ici, une citation, puis je reviens à mon problème. Dans un livre qui s'appelle « Séduction psychologique », L'échec de la psychologie moderne, voici ce qui est écrit à un moment donné, qui m'avait beaucoup parlé. Dès que vous avez pris la responsabilité de votre réalisation personnelle, vous avez également pris la responsabilité des échecs et des imperfections de la vie. La suprématie donnée au moi, un substitut de Dieu, fait peser sur nous un fardeau énorme. Les formes extrêmes de maladie mentale sont toujours des cas extrêmes d'absorbement de soi. Alors moi, il fallait que je sois parfait. Dieu n'existait pas dans ma vie, il fallait que j'assume et que je devienne comme Dieu en quelque part, que je sois parfait. Alors j'ai développé ce qu'on appelle aujourd'hui le TOC, trouble obsessif compulsif. Et c'était très grave dans ma vie. Donc j'étais étudiant en université, mais j'avais commencé à développer des habitudes comme vérifier si j'avais bien fermé ma porte d'appartement. Alors je sortais de l'appartement, j'habitais sur la rue Barclay, ça vous dit quelque chose, Barclay? Petit quartier, il y a encore des Juifs dans ce coin-là, j'imagine. Alors, j'avais un collègue, là, un coloc, et puis je vérifiais si ma poignée de porte était bien fermée une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Puis là, je descendais l'escalier, j'étais sur le trottoir de la rue, juste à temps pour arriver à l'heure à mon cours. Puis là, je me disais, mais est-ce que j'ai bien vérifié si ma porte est bien fermée? Et je remontais et je descendais en pleurant, parce que je me sentais esclave. Et puis, je me relavais les mains. J'avais peur que, par la saleté de mes mains, je pourrais empoisonner quelqu'un. C'était devenu maladif. Mes pensées me contrôlaient. Alors, je rencontrais mon psychologue. Et puis, lui, il appliquait la méthode que j'avais appris en classe. Alors, je lui expliquais mon problème. Et puis, sa méthode, c'était... Alors, il y a une fois qu'il était gentil, il est venu dans mon appartement, contact personnel, il est venu visiter, voir un peu. Alors là, il dépassait un peu la méthode. Mais pour vous montrer la méthode, la religion de l'autonomie, c'est il faut que tu débrouilles par toi-même et tu vas trouver en toi la solution. C'était un peu pénible comme aide. Alors, j'étais très, très malheureux. Et toujours pendant mes études, ça devait peut-être 3 ans, je me souviens plus exactement à quel moment, donc autour de 22 ans, alors que j'étais encore tourmenté par ces pensées qui m'obsédaient, j'étais esclave d'essayer d'être parfait, etc., puis j'avais une culpabilité extrême. Et un jour, j'étais à genoux dans ma chambre, et j'ai brandi le poing vers le ciel, j'étais en larmes, prends le poing vers le ciel, j'ai dit, Dieu, si tu existes, je te hais. Parce que j'attribuais que même si j'étais athée, si Dieu existe, je ne vois pas comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut me laisser souffrir comme ça. Et j'ai vraiment connu, expérimenté, c'était quoi la maladie mentale et la souffrance mentale. J'étais plongé dedans, j'étais désespéré. Alors ça, c'est le détour que j'ai pris par rapport au plan original de Dieu, au travers d'une forme de philosophie de vie, de religion, qui n'avait rien à voir avec cette relation avec un Dieu à l'œuvre. Dieu était absent de ma vie. Alors là, il y a eu un retour à ma destinée originale. Après mes études, donc quand je suis sorti, j'ai commencé à travailler avant même d'avoir fini mon mémoire. J'ai fait tout en même temps. La dernière année, j'ai commencé à travailler pour un CLSC à Châteauguay comme animateur social. Et là, je commence à me poser des questions. Je dis, mais la vie, c'est quoi? Je vais faire de l'argent. Je vais éventuellement me marier. J'ai encore mes problèmes psychologiques, mais moins. Je vais avoir une maison, une voiture, deux voitures. Mais la psychologie n'avait rien répondu par rapport à pourquoi j'étais là, à quoi servait ma vie, etc. Alors, je me suis mis à faire un plan. Je me suis dit, je vais faire, bien, à l'époque, c'était très populaire, ce qu'on appelait à l'époque, et je vais montrer la carte ici, le hippie trail, le chemin des hippies. Alors, le chemin des hippies commençait par Amsterdam, pour moi, et mon plan, c'était de me rendre jusqu'à Katmandou, au Népal. Alors, je dis, je vais chercher dans les religions orientales pour avoir une réponse à mes questions, ça sert à quoi la vie? J'étais en recherche. Alors là, j'ai fait un plan de partir une année. Et je dois dire qu'avant de prendre l'avion, en mai 1974, je commençais à avoir un peu peur, mais je ne pouvais plus reculer. J'avais dit à tout le monde que je m'en allais. Alors, l'orgueil me tenait. Et je suis parti avec 3 000 $ en chèque de voyage dans les poches, un sac à dos et un an de voyage qui allait m'amener jusqu'à Katmandou avec aucun plan de retour. Je ne savais pas ce qui allait arriver après. Je savais où j'allais, je ne savais pas comment j'allais revenir. Le premier jour, je suis arrivé à Paris sur les Champs-Élysées, je n'avais pas dormi de la nuit. Et là, j'étais fatigué, je surveillais mon sac à dos pour me faire voler. Puis là, je me suis dit, j'ai fait la plus grande bêtise de ma vie. Un an devant moi, seul à voyager, puis je voulais être autonome, donc ne dépendre de personne. Auberge de jeunesse, faire du stop, le train, etc. Et puis, est-ce que j'étais aux Indes? Je ne me suis jamais rendu aux Indes. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Depuis Paris, Belgique, ensuite Amsterdam. Et là, je ne vais pas faire trop long, parce que ça pourrait prendre trop de temps, mais avec différentes circonstances, je me suis retrouvé avec une communauté de hippies chrétiens, de mélange, une cinquantaine de personnes qui vivaient sur deux péniches dans le port d'Amsterdam, ici. Et ça s'appelle, ça n'existe plus maintenant, ces péniches-là ne bougeaient pas, restaient là, ça s'appelle l'Ark en anglais, l'Arche. On était une cinquantaine de jeunes, on communiquait en anglais, partout dans le monde, des jeunes qui avaient rencontré Jésus. La première qui m'a témoigné avant de me convertir, elle a dit « J'ai lâché la drogue pour Jésus. » Je pensais qu'elle était complètement crackpot. Mais finalement, j'ai été sur ces bateaux-là, j'ai aidé à faire de la peinture tout en étant inconverti. C'est moi qui m'occupais d'une équipe de chrétiens. J'ai réclamé des études bibliques et je me suis converti. En passant, parenthèse, études bibliques, GBU, je me souviens, quand j'étais à l'université, avoir été à une rencontre des GBU pendant mon passage. Je m'en rappelle encore de cette rencontre-là pour dire que les GBU, lâchez pas. on s'aime, on ne sait pas où ça va aboutir. Mais, alors, là, je me suis converti et là, j'ai fait la rencontre d'un Dieu qui était plus grand que moi. Je n'avais pas besoin d'être autonome, de me débrouiller tout seul. Il y avait un Dieu qui était avec moi. Et sur la rue, quelques semaines après Amsterdam, je marchais et Dieu me rappelle cette parole. Si tu existes, je te hais. Oh. Là, j'ai vu, Dieu, tu ne m'as jamais rejeté. Et tu m'as aimé, tu m'as amené à toi, même si je t'ai haï. Et là, bien sûr, je me suis demandé pardon à Dieu. Et là, j'ai vu la grâce de Dieu et la miséricorde. Vous savez, très simplement, comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux? Comment on définit grâce et miséricorde? Alors, la miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que je mérite, et la grâce, c'est recevoir ce que je ne mérite pas. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que je mérite. Je mérite le châtiment. La grâce, c'est je reçois l'héritage céleste. C'est un cadeau que je ne mérite pas. Alors, Dieu m'a montré sa miséricorde et sa grâce. Mais alors là, il y avait un travail que Dieu fallait qu'il fasse dans ma vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Mais je fais une petite pause ici, un autre petit principe peut-être à dégager. Même si ta vie a pris un détour non voulu par Dieu, il est capable de te ramener sur le chemin qu'il a prévu pour toi. Il est grâce et miséricorde. Bien sûr, il faut qu'on se laisse interpeller en quelque part. On n'est pas des marionnettes. Mais Dieu est agissant. Alors, Dieu a agi. Je m'en allais aux Indes, puis m'arrêtais à Amsterdam. Je ne suis pas resté à Amsterdam pendant une année, mais quand même presque 6 mois. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Dieu m'a amené par une période de dépouillement et de transformation. Ça, c'est des étapes dans nos vies qu'on peut reconnaître parfois. On peut être très, très pressé de faire des choses. Je me souviens, moi, j'avais écrit une lettre à mon responsable. Mon responsable, c'était Floyd McClung, peut-être certains l'ont connu. Il a écrit le livre « Cœur Dieu, cœur de Père ». Alors, c'était mon responsable à Amsterdam. Puis, il était en voyage aux États-Unis. Je lui ai écrit une lettre. Il me répond « René, je vois en toi un potentiel de leadership peut-être dans 2 ans. » Deux ans, c'est bien trop loin. Je ne sais pas où j'avais la tête. Je n'étais pas du tout réaliste. Alors, pendant à peu près 5 mois, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais responsable de l'entretien sur les bateaux. Amsterdam, la peinture, les radiateurs, les tuyaux qui pouvaient couler, etc. Et je n'étais pas un gars très manuel. Moi, je suis un patenteux, mais je ne suis pas un manuel, vraiment. Et à Noël, Floyd écrit une lettre à Jésus comme cadeau de Noël. Parce que c'est de la fête de Jésus, on faisait un cadeau à Jésus. Lui, c'était une lettre. Et sur la lettre, il remerciait Dieu pour chacune des personnes qui habitaient sur le bateau avec une caractéristique. Et arrivé à mon nom, il dit... « Dieu, je te remercie de nous avoir donné un psychologue comme responsable de l'entretien. » Et là, c'était comme un flash. « C'est vrai, je suis psychologue. Et je suis responsable de l'entretien, dont je ne suis même pas qualifié. » Aïe, aïe! Ça, c'était une des choses où, dans nos vies, Dieu va nous faire passer par des étapes de dépouillement. Pour nous transformer. Parce que c'est important pour lui. Et puis, il faut que je vous parle de Marcel. Marcel Poggioli a écrit un livre qui s'appelle « La tête brûlée ». Pourquoi? Parce que Marcel Poggioli avait la tête brûlée. Et que Marcel Poggioli, en juillet 1974, quelques semaines après ma conversion, un gars de Paris, de France, arrive sur le bateau. Et moi, j'étais le seul francophone et je devais m'occuper de ce gars-là qui avait la tête brûlée. Brûlé par la drogue, il était possédé d'esprits mauvais, et j'étais le jeune chrétien qui devait m'occuper de ce gars-là. Il travaillait pour moi dans l'entretien, mais je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec quelqu'un qui, au niveau mental et tout, était complètement space. Alors, space, il répandait la peinture sur le sol plutôt que la répandre sur les murs, et puis je le trouvais ébahi, couché dans le salon, en train de regarder au plafond, alors qu'il devait travailler avec moi. J'ai passé par toutes sortes d'étapes avec lui. J'étais avec lui dans sa famille en France. C'était tout un phénomène, ce gars-là. Et alors, j'ai appris la patience, j'ai appris à contrôler mes émotions, etc. Et Dieu a travaillé sur l'école de mon caractère. Une année plus tard à peu près, en septembre 1975, j'étais parti 16 mois, je reviens au Québec et je m'implique avec Jeunesse en Mission. Et on avait une maison à Montréal, Montréal-Nord, grâce à Street View, on retrouve encore cette maison aujourd'hui, pas loin du boulevard L'Archevêque à Montréal-Nord. Et cette maison me rappelle un souvenir particulier. J'étais responsable de la maison pendant, à partir de janvier 1976. Les responsables, eux, étaient partis commencer un centre à Jeunesse en Mission d'Oname. Et mon souvenir, c'est que ce toit-là coulait. Alors, comme le toit coulait, je me faufilais avec des bacs pour ramasser l'eau dans le grenier, qui était à peu près ça d'eau. Donc, je rampais dans le grenier, en train de récolter l'eau, puis là, je me disais, je suis un psychologue. Allô, Seigneur? Ah, oh, c'est le cas de dire, hein? Allô? Oh, oh, elle est bonne, celle-là. Je ne l'ai pas prévu. Alors, Dieu nous fait travailler notre caractère. Ensuite, je me suis retrouvé dans ce centre, une belle photo, j'aime bien cette photo, mais Dunham. Ça, c'est un gymnase, puis il y a une autre aile derrière, c'est un grand centre. J'avais jamais été, il y a une communauté chrétienne de jeunes en feu pour le Seigneur qui travaillent là, qui étudient là. Ça vaut la peine de voir ce centre. On vient de fêter 40 ans il y a deux semaines, 40 ans d'existence. Et puis là aussi, Dieu a continué de me former. Puis vers l'âge de 35 ans, j'étais le responsable du centre depuis l'âge de 30 ans. Vers l'âge de 35 ans, là, je réalise, mais j'ai passé les plus belles années de ma jeunesse dans cette place. J'étais comme un peu... Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pour reconnaître que tout le long de ces années-là, Dieu continuait de me former dans mon caractère. Et que ce n'était pas du temps perdu. Parfois, on a l'impression qu'on peut perdre notre temps dans certaines choses, mais non, Dieu nous forme. Alors, l'école du caractère. Qu'est-ce qu'on entend par caractère? Le caractère, c'est la manière d'agir, de penser dans tous les domaines de notre vie. Dieu est plus intéressé à qui tu es que ce que tu fais. Dieu est plus intéressé à ta personne qu'à ta fonction. Et il ne faut pas mépriser ces temps où on a l'impression qu'on n'est pas pleinement reconnu ou pleinement utilisé, etc. Mais de voir que ces années-là de formation sont importantes. Il y a des gens aujourd'hui, même dans le corps de Christ, dans l'Église, qui ont peut-être une fonction, qui ont peut-être un diplôme, mais ils n'ont pas le caractère. Le caractère n'a pas été formé. On ne s'occupe pas tellement de ça souvent. On passe par-dessus ça. Mais Dieu, lui, passe pas par-dessus ça. On a l'exemple de Moïse. Moïse, Dieu l'a travaillé pendant 40 ans dans le désert. Avant d'entrer dans le désert, il avait décidé que lui allait sauver le peuple juif à sa façon. Il tue un type, le lendemain, il y a un autre, il dit, c'est toi qui as tué l'autre, vas-tu nous tuer nous aussi? Puis là, il a pris la peau d'escampette. 40 ans dans le désert, et puis 40 ans après, il arrive au buisson ardent, puis là, c'est un merveilleux passage, on pourrait en parler longtemps. Mais là, Dieu lui dit, va libérer mon peuple d'Égypte. Et Moïse dit, « Pas capable de parler, elle ne peut pas avoir quelqu'un d'autre que moi. » Alors, Dieu l'avait travaillé, il avait travaillé à devenir très homme, mais à un point un peu trop, là, tu sais. Au point que Dieu, à un moment donné, s'est fâché, il dit, « OK, ton frère s'en vient, là, lui, il va faire tu vas parler à ton frère, puis lui, il va parler ensuite. » Alors, mais ce qui est arrivé à Moïse, quand même, on voit dans Nombre 12, verset 3, or, Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Dieu l'avait amené à une position d'humilité, qui m'amène à définir quelques termes ici. Qu'est-ce que l'orgueil? J'ai pris ça dans le Larousse, je trouvais ça super bon comme définition. L'orgueil, c'est une estime excessive de soi-même. L'orgueil se nourrit de l'ignorance. C'est-à-dire que t'es vraiment ignorant si tu te penses smart. Tu te penses super bon, meilleur que les autres, etc. T'es vraiment ignorant, tu connais pas qui tu es. Alors, Moïse se pensait bon, Dieu l'a amené à une position d'humilité. Et qu'est-ce que l'humilité? Deux définitions. Une première, c'est être prêt à être connu pour qui l'on est. Je trouve que c'est une bonne définition de l'humilité. Être prêt à être connu pour qui je suis. Et une deuxième définition qui vient d'un type qui s'appelle Henry Jacobson, c'est la capacité de se voir comme Dieu nous décrit. Ça, c'est important. Parce que une fausse humilité, c'est dire, oh non, moi, je suis pas capable, moi, je suis pas bonne, je suis pas belle, je suis pas gentille, ou je suis moins bon que, etc. Non, ça, c'est pas de l'humilité, ça. C'est la négation. C'est un refus de voir la vérité, de se voir comme Dieu nous décrit. Alors donc, il y a des déserts dans les vies, c'est-à-dire des moments où on a l'impression qu'on ne produit pas nécessairement de fruits, des moments d'attente, mais il ne faut pas mépriser ces moments-là parce que ce sont des écoles. Donc, j'ai passé des années à l'école. Et il y a un temps pour chaque chose. 1 Pierre 5, verset 6 dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève en temps voulu. » Dieu a son temps pour chacun d'entre nous. Et le temps de Dieu, souvent, ce n'est pas notre temps à nous. Il y a des saisons dans ta vie. Il y a des moments de préparation, des moments où tu portes du fruit, des moments où, oui, on est mûr, il y a des choses qui se passent, puis des moments où on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, il y a des hivers, il y a des saisons dans nos vies. Et ce qui peut nous amener la paix, c'est de réaliser dans quelle saison on est. Comme là, il faut qu'on accepte la saison d'automne, et puis le mois de novembre, c'est peut-être le pire mois de l'année parce qu'il n'y a rien, c'est mort, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de neige, on arrête à la neige. Puis une fois que la neige est arrivée, on arrête, la neige s'en aille. Mais il faut qu'on accepte chacune des saisons. À moins de vouloir être un snowbird, de partir 6 mois par année. Mais moi, comme Québécois, je me dis, je suis au Québec, il faut que j'assume les saisons, accepter les saisons. Dans nos vies, c'est comme ça. Il faut qu'on accepte, discernant les saisons dans lesquelles nous sommes, et ça nous amène à vivre dans la paix. Accepter là où je suis maintenant. Faire confiance que Dieu est en charge de ta saison de vie. Dieu fait tout parfaitement en son temps. Alors, une clé que moi, je pense qui peut vraiment nous aider dans notre vie, c'est apprendre à faire la prochaine chose que Dieu te demande dans un esprit de service en faisant confiance qu'il sait ce qu'il fait avec toi. Faire la prochaine chose que Dieu te demande. Alors, je faisais la prochaine chose que Dieu me demandait quand j'étais directeur du centre à Jeunes sans mission à Donham. J'essaie de travailler avec fidélité dans ce que Dieu me demandait de faire, en faisant confiance qu'en son temps, il va conduire. Même si tu ne comprends pas. Alors, ce que Dieu a permis de faire dans ma vie, c'est de vivre un point tournant à l'âge de 34 ans. Je reviens ici. Ça ne veut pas dire que pendant toutes ces années, jusque-là, Dieu ne faisait que travailler sur mon caractère et je n'avais pas l'occasion d'exprimer mes dons. Non, j'apprenais énormément au sein d'une vie communautaire, hein, où on était ensemble, en communauté, on mangeait ensemble, dans un même lieu. J'apprenais au niveau des relations, la résolution de conflits, etc. Plein de choses que j'apprenais. C'était une belle école aussi. Mais il est venu un temps où c'était un point tournant dans ma vie, c'est lorsque j'ai eu une année sabbatique. Alors, j'ai une seule année sabbatique dans ma vie. Elle date maintenant de 32 ans, mais maintenant, à l'âge de la retraite, je suis un retraité non pratiquant, comme on peut dire. C'est une belle saison aussi dans ma vie. Dans cette année sabbatique-là, j'ai été stagiaire en relations d'aide à Lausanne, dans un lieu qui s'appelait, un lieu d'écoute et de prière, s'appelait La Barque. Et là, j'avais un mentor, Samuel Grosjean, qui me formait au niveau de la relation d'aide avec une approche biblique. Ce qui est nouveau pour moi, parce que avant ça, quand quelqu'un avait un problème quelconque, mon approche était, boum, imposer les mains, que la personne soit guérie. Ouais. Alors, j'ai appris différemment. Puis pendant 3 mois, il fallait que je me la ferme. Ça, c'était pas facile. J'étais stagiaire. Puis après ça, j'ai suivi un cours de relation d'aide avec Jeunes sans mission, 3 mois intensifs. Donc, à peu près une année en Suisse, 10 mois de formation en relation d'aide. Et puis, l'épouse de Samuel Grosjean, Ida, un jour, elle a eu une image pour moi. Elle dit, « René, je vois comme une vieille souche toute noire avec un plant de framboisier qui pousse à côté. » Je m'appelle la framboise, non pas ça. Hein? Et ce que j'ai vu dans cela, c'est le principe de la mort et de la résurrection. Quelque chose devait mourir dans ma vie. Il y a des choses qui doivent mourir dans notre vie. Des choses qui sont plutôt de l'ordre humain, qui ne sont pas en lien avec les voies de Dieu ou les valeurs de Dieu, etc. Et quelque chose de nouveau allait renaître dans ma vie. Et donc, pour moi, il y avait comme un retour aux sources, la motivation d'aider les gens. Alors, 2 ans après, j'ai repris ma licence avec l'Ordre des psychologues. Et j'ai commencé à faire de la relation d'aide. Deux ans après, on a commencé des écoles de formation en relation d'aide à Donham. Et en 94, c'est-à-dire donc 20 ans après ma conversion, j'ai repris ma licence de psychologue jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je fais de la relation d'aide à temps partiel chez moi. Et de là, j'écris donc 2 livres. Donc, il y a eu des fruits qui sont sortis. Il y a eu une renaissance de choses qui ont pris le temps de mûrir pendant des années. Et ça continue de mûrir toujours parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Mais j'ai vu vraiment comment est-ce qu'à un moment donné, Dieu m'a amené à une croisée de chemin et à des choses nouvelles dans ma vie après avoir passé par cette période d'apprentissage, d'école du caractère, etc. Donc, de cela, mon témoignage de vie, que conclure comme élément pour t'aider, toi, dans cette recherche de ta destinée, dans la recherche de ton identité? Eh bien, il y a peut-être 3 choses que j'aimerais vous laisser comme penser, peut-être vous aurez encore des questions avant qu'on prenne notre pause, mais première chose, c'est important qu'on cherche à connaître la vraie nature de Dieu. Quand j'ai dit « Dieu, si tu existes, je te hais », j'avais un faux concept de Dieu. Peut-être que dans ta vie, tu as l'impression que Dieu est très loin, très distant, et ça, de réaliser que c'est un faux concept. Ça ne veut pas dire que, en lisant la parole, tu vas automatiquement être réconcilié avec la vérité sur Dieu. Mais au moins de réaliser que j'ai un faux concept sur Dieu. Dans ce cas-ci, ça peut être un Dieu distant, dans d'autres cas, peut-être un Dieu colérique, un Dieu dur, un Dieu intransigeant, comme ton père a été avec toi, ou un Dieu absent, comme ton père était absent, je ne sais pas. On parle des faux concepts. Et d'être à la recherche. Dieu, qui es-tu vraiment? Je veux connaître ton cœur, je veux connaître ta personne. Parce que plus je vais te connaître, plus je vais me connaître. Plus je te connais, plus je vais vivre des libérations dans ma propre vie. Alors, j'ai appris que pour être un homme, il ne fallait pas que je sois autonome. Pour être un homme, il fallait que je collabore avec un Dieu qui prenait soin de moi, qui veillait sur moi, qui m'instruisait. Être en collaboration avec un Dieu agissant. Dieu était et est encore agissant dans ma vie. Je cherche encore la volonté de Dieu pour les autres pas que Dieu a encore pour moi et mon épouse, parce que Dieu n'a pas fini avec nous. Dieu n'a jamais fini avec toi. Deuxième chose, tu as besoin de grandir dans la réalisation de ta valeur. Tu es une personne unique. Et Dieu veut t'inviter à prendre possession de ta destinée. Et si tu as une mauvaise image de qui tu es, puis on va parler de ça plus en fin de semaine, alors demande à Dieu de te conduire sur une révélation du fait que tu es unique, tu es spécial, tu es différent. Et troisième chose, tu es invité à collaborer avec Dieu. Dieu est agissant, il veut te montrer le chemin à suivre. Bien sûr, il attend ta réponse. Ça implique donc être sensible à l'écoute de Dieu. Quelle est la prochaine chose que Dieu me demande de faire? Ne pas t'inquiéter pour dans 10 ans, mais dire, Seigneur, je veux faire ce que tu me demandes de faire maintenant. Je veux faire la prochaine chose que tu me demandes. Et il y a un passage que j'aime beaucoup dans 1 Pierre 5, versets 10 et 11. Je l'aime parce qu'il y a le mot lui-même. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à la gloire, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dieu a lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Dieu, donc, lui-même veut t'affermir, te fortifier, te rendre inébranlable. Donc ça, c'est l'engagement de Dieu envers toi. Dieu est engagé envers toi et engagé envers moi. Et pour terminer, une citation qui me semble qui rassemble pas mal des choses que je vous ai dit en cette session ce matin, qui vient de John Stott. le livre La Croix de Jésus-Christ, il dit ceci. Premièrement, nous devons apprécier et estimer ce que nous sommes par création. Deuxièmement, rejeter et condamner tout ce que nous sommes en raison de la chute. Et finalement, nuancer le tout par la rédemption divine. Nous sommes recréés à son image. Alors, je m'étais détourné. J'étais entré sur un chemin de folie et Dieu m'a recréé progressivement à son image. Voilà, je trouve une citation qui résume assez bien cette session. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, réactions, quelque chose qui... Tu veux dire, je ne peux pas m'empêcher de le dire, ça m'a tellement frappé telle affaire ce matin. Je ne sais pas, on a 2 minutes avant notre pause. Oui. C'est-à-dire, Dieu est toujours présent.
Parce que la sécurité, c'est la présence de Dieu.
Oui.
Et s'il y a l'insécurité, c'est la présence de Dieu, elle est là aussi.
Oui. Alors, la phrase que ça veut dire, c'est que si je suis dans une situation de danger ou de difficulté ou d'épreuve, ma sécurité va venir du sens que Dieu est présent malgré tout. Donc, je ne dois pas m'attendre à ce que je sois toujours sans épreuve, sans difficulté, etc., et paniquer quand ces choses-là arrivent, mais me rassurer que quand ça arrive, de savoir dans mon esprit, dans mon cœur, Dieu est là, peu importe ce qui se passe. Si je suis malade, si je suis éprouvé dans une relation, si j'ai un manque financier ou autre chose, ça peut m'insécuriser. Bien sûr, ça peut m'insécuriser. Donc ça, c'est des épreuves de vie, mais ma sécurité ne va pas venir d'être sans épreuves et de paniquer quand des épreuves. Ma sécurité va venir du fait que, oui, il y aura des épreuves dans ma vie, mais Dieu est là dans ma vie. Dieu, tu es là. Est-ce que ça clarifie un peu plus? Qu'on est dans les quoi? Vrai concept de Dieu? Alors ça, c'est une très bonne question aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a, la vérité. Hein? Il y a la vérité qui est là, mais il faut qu'elle fasse son chemin dans notre cœur, cette vérité-là. Alors, quand on a un concept, je prends un exemple, hein? Un super passage dans Exode 34. Voilà, Exode 34, où Dieu se manifeste, il parle à Moïse, il dit son nom. Je trouve un passage extraordinaire, verset 6. L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère. Je m'arrête là. Je pourrais continuer, mais le reste est beau aussi. Et je te vois colérique, Dieu. Mais la parole dit, t'es lent à la colère. Mais moi, quand j'étais petit, je faisais une gaffe, mon père me sacrait une claque en pleine face. Une mornif, comme on disait hier, dans notre jeu. Non, je ne dis pas ça pour mon père, c'est pas ça. Mais quelqu'un peut dire, mais moi, j'ai appris à te voir au travers des lunettes de ma relation avec mon père. Mais je vois que tu dis que t'es pas colérique. Donc, je vois une vérité. Je dis, Seigneur, d'où vient mon faux concept? Est-ce que je l'ai appris dans mon vécu? Est-ce que je l'ai appris dans des enseignements à l'Église en disant, as-tu un péché dans ta vie? Comme ma femme, sa mère, qui était chrétienne, avant de se coucher le soir, quand elle couchait ma mère, ma femme, ma belle-mère couchait, était petite, la couchait au lit le soir, puis disait à ma femme qui était petite, est-ce que tu as un péché dans ta vie, là, avant de te coucher, t'endormir? Elle lui communiquait un faux concept de Dieu. Alors, ça communiquait la peur de Dieu. Donc, d'où viendrait mon faux concept? Et là, il y a un processus de libération, de guérison, on va en parler aujourd'hui, par lequel Dieu veut nous amener pour qu'on reçoive cette vérité. Est-ce que ça aide? Donc, un, tu regardes, j'ai un faux concept. Peut-être des fois même tu vois les Écritures à travers du faux concept. Parce que là, il y a des gens qui m'ont dit, des gens matures dans le ministère, Oh, moi, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu, j'aime mieux le Dieu du Nouveau Testament. C'est faux. C'est pas vrai. Je viens de lire dans l'Ancien Testament ici, là. Le psaume 103, Dieu est comme un père compatissant, etc. Dieu est un Dieu de grâce tout le long. Mais des affaires qu'on lit, aïe, Dieu. Donc, de voir qu'est-ce que la parole dit vraiment, demander au Saint-Esprit de nous éclairer, puis de voir d'où viennent mes faux concepts et ensuite de recevoir une libération par rapport à ces faux concepts-là pour que la vérité s'enracine dans notre vie. Mais ça, c'est en quelques mots là, un processus qui peut prendre du temps. Oui.
Merci encore pour ce thème qui dit Dieu à l'œuvre. Moi, j'ai quelque chose qui me dérange un peu quand on parle de Dieu à l'œuvre. Des fois, je suis dérangé de voir que Dieu nous a créés tous égaux, mais il y a des gens qui décident, par exemple, de la vie ou de la mort des autres. Donc, des gens qui, par leur façon de faire ou de décider, il y a d'autres personnes qui prennent ça à la place. Et des fois, je suis dérangé dans le fait de voir que ils décident, puis ils continuent à faire ce qu'ils font, il y a des gens qui meurent, puis mais puis Dieu ne fait rien. Oui, dans ce sens-là, est-ce que si quelqu'un me pose une question sur ça ou si je me questionne sur ça, comment est-ce que je peux croire ou avoir confiance que Dieu est à l'œuvre aussi dans ce sens-là? Est-ce que Dieu laisse les gens, vu que Dieu leur a donné le fait de décider, le choix, est-ce qu'il leur laisse, parce qu'il leur a donné le choix de décider, il les laisse faire comme ils veulent ou...
Oui. C'est une très bonne question qui pourrait être répondue longuement. Mais disons, un premier point de repère, c'est le psaume 113, que tu pourras lire, le psaume d'Asaph. Asaph avait un problème semblable. Asaph, au début, il dit dans son psaume, « Dieu est bon, mais quand je regarde les méchants, ils s'engraissent, puis ils font tout ce qu'ils veulent leur vie, ils meurent dans leur graisse. » Il dit, un moment donné, je capotais. Et je comprenais pas. Et puis, je me suis questionné sur toi, Dieu, dans tes voies. Puis là, il dit, jusqu'à ce que je vois le sort final des méchants. À la fin, une justice finale. Puis, alors Asaph, il dit, avant, il dit, mon cœur s'aigrissait, puis j'étais stupide. Et puis, ensuite, il dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Qui ai-je au ciel? Donc, il y a une révélation de la justice de Dieu. Mais là, c'est la justice finale de Dieu. Et malheureusement, il y a des choses où la justice ne sera pas sur terre. Mais c'est vrai que Dieu, ayant créé l'être humain libre, donc il y a des choses qui se passent qui sont en dehors du plan de la volonté de Dieu, mais parce que Dieu s'est lui-même mis sous cette loi de la liberté, dans certaines situations, il va intervenir. Dans certaines autres situations, il n'interviendra pas immédiatement, mais il y a une justice finale. Et ça, c'est Dieu qui sait quand il peut et veut intervenir, quand il ne peut pas ou ne veut pas intervenir. Ça, c'est lui qui décide dans sa sagesse grande et infinie. Donc, le psaume 73 peut t'aider, mais pour dire que Dieu est absolument juste, il est absolument bon. Le psaume 145, je pense, c'est le verset 17. L'Éternel est bon dans toutes ses œuvres et juste dans toutes ses voies. Ou bon dans toutes ses voies et juste dans toutes ses œuvres. Et ça, c'est la vérité. Et une dernière petite phrase qui peut dire, dirait ceci, il y a certains principes qu'on peut comprendre sur Dieu, mais si parfois je n'arrive pas à expliquer une situation, je dis ceci, je ne comprends pas tout, mais je sais celui qui sait tout. Je ne connais pas la réponse, mais je connais le Dieu qui a la réponse. Mais pour arriver à avoir cette paix, cette confiance, il faut vraiment que cette confiance en son caractère est établie en moi, en toi. Dire, Dieu, tu es bon dans toutes tes voies et juste dans toutes tes œuvres. J'ai l'assurance qu'il n'y a aucune imperfection en toi. Mais pour ça, il faut oser poser des questions comme tu fais. Et continue de poser des questions, cherche. Et puis plus ça va aller, plus tu vas grandir dans cette assurance que Dieu est parfait dans toutes ses voies.